pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Bonjour et bienvenue sur ces paroles du Secanto. Vous êtes dans Page après page et aujourd'hui je reçois avec un très grand plaisir Georges Patriglaise. La dernière fois que nous l'avions rencontré, c'était au téléphone. Et là aujourd'hui c'est de visu. Bonjour Georges.
Bonjour Gisèle.
Comment ça va dans cette mauvaise période ?
Eh bien, on continue de travailler et on prépare la sortie du nouveau roman qui est pour la semaine prochaine, vous voyez.
Oui.
On utilise, disons, le temps qui a été donné pour le positiver, essayer de continuer à avancer,
oui.
Voilà.
Donc la semaine prochaine, à l'heure où nous enregistrons.
Exactement.
Vous avez choisi cette belle chanson, le Secanto, notre Secanto traditionnel. Je veux dire aussi que vous êtes maintenant à la retraite de l'enseignement.
Exactement.
Donc vous avez encore plus de temps pour travailler. Vous avez été élu à l'Académie des Arts, des Lettres et des Sciences et du Languedoc. Mais pour nous, pour notre plaisir à nous, vous êtes un très bon auteur, je dirais un excellent auteur du terroir et historien à la fois. Ce Secanto, pourquoi ?
Secanto parce que c'est l'hymne de la région Occitanie, au sens large du terme. Bon,
ah, hein.
C'est l'hymne dans lequel on se retrouve tous les uns les autres et que l'on chante avec émotion souvent quand on est à l'étranger. Hein, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir fait une excursion en Bretagne sur un bateau et une dame qui était, je ne savais pas, qui était de la région d'Albi, a commencé à chanter le Secanto et d'autres ont repris, on s'est rendu compte, on était 5 ou 6 en fin de compte de l'Occitanie à chanter le Secanto devant les Bretons qui nous regardaient. Les yeux un peu éberlués, en comprenant parce qu'on braillait littéralement dans une langue étrangère à leurs oreilles.
Oui. Et puis surtout, dans ce Secanto symbolise notre émission aujourd'hui, notre page après page. Donc cette musique, on l'a bien écoutée, et justement, on va parler de celui qui a écrit ces paroles. Mais pour ce livre, vous avez dû faire, je suppose, beaucoup de recherches, beaucoup d'informations, parce que vous ne deviez pas tout savoir, peut-être vous en saviez quelques-uns. Et puis, c'est pas comme un roman, il faut que tout corresponde à la lettre.
Oui, alors
vous
ne
pouvez pas tricher, là.
C'est un peu différent, en effet, d'un roman. Et il faut raconter comment ça s'est fait,
oui.
Quelle est l'histoire. Un peu ce livre, c'est l'enfant du Covid. Hein. Je m'explique. J'étais bon, dans mon roman habituel, annuel, et quand une journaliste de la Gazette ariégeoise m'a demandé de faire quelques chroniques historiques pour le journal, parce qu'ils avaient du mal à trouver de l'information. Donc j'ai fait cette rubrique chronique, et qui ont été vues par un éditeur de la région de l'Hérault, qui s'appelle Le Papillon Rouge, c'est le nom de la maison d'édition, qui a une collection qui s'appelle C, qui ont fait l'histoire. Il m'a demandé si je pouvais faire ainsi un bouquin sur les Ariégeois. Alors j'ai hésité un peu au départ parce que les Ariégeois, bon, j'en connaissais quelques-uns, mais ça me paraissait être un socle assez étroit en fait de compte. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Ariégeois qui avaient fait beaucoup de choses en fin de compte et qui n'étaient pas connus. Et ça m'a motivé donc pour écrire ce bouquin qui sont une série de 50 courtes biographies d'Ariégeois célèbres et oubliés qui ont participer à l'histoire de la France, de l'Occitanie et même l'histoire du monde aussi également.
En effet,
donc,
c'est vrai.
Vous voyez, c'est un livre qui a une contractualité liée à la crise sanitaire, je dirais,
oui.
Hein, et qui, ma foi, marche très très bien aujourd'hui et qui, le pari a été gagné en fin de compte.
Oui, et je suppose que vous ne connaissiez pas tous les personnages que
absolument.
Vous avez mis.
Absolument. Il y a des gens que je ne connaissais pas. Par exemple, quelqu'un comme Cojol qui est le fondateur de l'ordre des experts comptables, mais totalement inconnu.
Mm-hmm.
Ce bonhomme est totalement inconnu. Et j'ai découvert par hasard qu'il avait été maire de Siguère et qu'il a fondé l'ordre des experts comptables en France et au niveau européen également.
Oui.
Et l'expertise comptable, c'est quand même dans la gestion d'entreprise quelque chose qui est bigrement important.
Tout à fait.
Donc, oui, l'importance de ce type. Alors, on en connaît certains, bien sûr, mais beaucoup étaient de inconnus. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le lot, c'est vrai. Ça,
oui.
Ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je dois avoir 5 femmes. Alors, ce n'est pas un effet de misogynie de ma part.
Oui.
Ça tient du fait, un fait historique. D'abord, tous les gens dont j'ai parlé, il faut qu'ils soient décédés.
D'accord.
Ça exclut les vivants.
Oui.
Or, jusqu'à une date récente, les femmes avaient un impact dans la vie économique et sociale qui était assez limité, en fin de compte. La place de la femme, en arrière, c'était la cuisine. Il faut dire les choses comme c'est. Elle faisait manger à son mari, elle restait debout, souvent pendant que le mari mangeait, et elle vivait après sa vie, comme elle pouvait. Les femmes n'avaient pas beaucoup d'importance de visibilité, disons, de visibilité. Et la seule visibilité pour les femmes, c'était soit le domaine artistique, donc la peinture, la musique, etc., ou le domaine de la séduction.
Mmh.
Et les femmes qui apparaissent dans ce livre,
oui. En
effet, correspondent à ces deux tableaux, à l'art, je pense à Marguerite de la Girodière,
oui,
par exemple.
Oui, tout à fait,
bon,
on en parlera.
Ou la séduction, comme Pauline Fourès, qui a été
aussi.
La maîtresse de Napoléon. Voilà.
Donc
la place relative des femmes, elle s'explique par le fameux plafond de verre,
oui. Hein,
qui n'est pas encore brisé loin de là, hélas, mais qui, jusqu'à une date récente, faisait une opacité complète sur la gente féminine.
Oui, et c'est bien que ça commence à changer d'ailleurs. Ce choix, vous avez pu le faire parmi tous? Ou ça s'est imposé à vous parce que vous aviez fait déjà des recherches?
Alors, il y avait des contraintes. Les contraintes, d'abord, c'était 50 personnages.
Oui.
19e, 20e siècle, à une ou deux exceptions près. Donc,
oui. J'ai
rajouté un ou deux personnages qui était incontournable, Gaston Phébus par exemple,
oui.
Bon, voilà. Ou l'évêque de Pamiers qui est des papes, bon, parce que ça c'est des gens qui sont hors du temps, je dirais.
Oui.
Mais sinon ils sont tous 19e, 20e. Et ce qui m'a guidé, c'est aussi la matière que j'avais pour aborder. J'aurais aimé en aborder d'autres, mais j'avais peu de matière et peu de ressources. Et donc j'étais obligé de laisser tomber. Exemple, Henri Martre. Henri Martre, qui est un polytechnicien, qui est né à Bellestat, qui est mort d'ailleurs et enterré à Bellestat. Henri Martre, qui était le président du GIFAS, le Groupement International des Industries Aéronautiques Françaises. Et ce type-là, c'est le père du Concorde.
D'accord.
Mais il n'y a rien sur lui, ou presque. J'ai retrouvé 10-15 lignes sur lui, pas de quoi alimenter une biographie. Donc je l'ai mis de côté. Je l'ai cité dans la liste complémentaire.
Oui.
Voilà. Mais je n'ai pas pu faire une biographie sur lui.
Oui.
Et puis d'autres sont rajoutés en cours de route. Il y a un 51e dans le lot, en effet. Le 51e, c'est une torpille.
Oui.
Lui, c'est un cas particulier. Quand j'ai fait le bouquin, il était toujours vivant. Quand j'ai envoyé le bouquin à l'éditeur, il était vivant. Quand j'ai reçu les épreuves pour les corriger, ce jour-là, il est décédé. Donc j'ai téléphoné à mon éditeur, je lui ai demandé si je pouvais ajouter une 58e fiche, parce que c'est quand même le plus grand écrivain contemporain d'Ariège. Il a eu le prix Fémina, bon, etc. Et je lui ai bien ça à René-Victor Pille, que j'ai connu et rencontré il y a une vingtaine d'années, avec qui j'avais fait des débats passionnés sur le rugby, hein, à l'époque, avec Henri Néroux, journaliste au milieu olympique. Et la 58e fiche, c'est In Memoriam, René-Victor Pille.
En effet, votre métier de professeur d'histoire a dû jouer parce que ça, peut-être que ça vous facilite les recherches.
Oui, ça m'a facilité les recherches, disons la structure. C'est de l'histoire soft, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'histoire universitaire, c'est l'histoire tout public, elle est dégraissée de tout ce qu'il pourrait y avoir de rébarbatif, de 7 à 77 ans, je dirais,
oui.
Un peu à la manière de Stéphane Bern, hein, sans me prendre pour lui, loin de là, il a son talent. Hein. Mais c'est du facile à avaler, à digérer, mm-hmm. et il faut que ça soit distrayant et aussi un peu amusant quand même.
Oui,
voilà.
Mais c'est très bien fait, j'ai vraiment adoré. Et bon, moi, pour les besoins de l'émission, j'ai lu comme si c'était un roman. Parce que pour moi, c'était aussi plus facile pour monter mon émission. Mais c'est vrai qu'on peut le lire comme on veut.
Dans le sens qu'on veut, on peut prendre en zapper certaines, tout est possible.
Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ce livre. L'Ariège, en tous les cas, c'est le fil conducteur et le point commun entre ces 51 personnages.
C'est le point commun. Alors, ils sont ariégeois de naissance,
oui.
Ou de cœur.
Oui, en effet.
Ou d'adoption.
Oui, ils ont fait l'histoire dans tous les sens du mot histoire.
Dans tous les sens du mot histoire, bon, voilà. La grande comme la petite.
Oui, 4 femmes sur 51 personnages. Vous n'avez pas trouvé d'autres femmes ariégeoises ou très peu, vous avez dit.
Il y en a quelques-unes, mais elles sont hors période. Vous n'avez pas quelqu'un comme Marie Calage, mais elle est hors du 19e, 20e, donc je ne pouvais pas la mettre.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bon, Esclamonde de Foix, elle aussi. Il y a
peut-être Anne-Renaud.
Voilà, mais elle était hors période. Donc je les ai écartées.
Toutes confondues, il faudra faire.
Voilà, d'édition.
Oui.
C'est ça. Et quant à celles qui sont vivantes, je n'étais pas pressé de les y mettre dedans.
Et voilà. Bien sûr, je vous comprends.
Voilà.
Nous allons pas pouvoir parler de tous les 51 personnages que vous avez mis. J'en ai pris comme ça au hasard. On va évoquer François Camel, qui lui, victime d'un crime, déguisé d'ailleurs, est mort pour la France. Et pourtant, il a été assassiné.
Oui, alors François Camel, c'est un héros de la résistance. Hein, en effet, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a travaillé dans le Volvestre, hein,
mm-hmm.
Et qui a été assassiné en 1943-44 par les nazis. Et il était la cheville ouvrière de cette résistance française. C'est un personnage qui toujours aujourd'hui vénéré, puisque par exemple la Fédération du Parti Socialiste d'Ariège porte le nom de Fédération François Camel. Il y a de nombreuses rues que François Camel en Ariège, notamment il y en a une par exemple à Tarascon-sur-Ariège, autant que je sache, si ma mémoire est bonne. Et c'est quelqu'un qui patriote vraiment de premier plan. Et c'est normal que la mémoire soit adorée, vénérée, et qu'on cherche à oublier, en fin de compte.
Oui.
Pas oublier. C'est quelqu'un qui est un socialiste convaincu. Hein. Il a fait une guerre très courageuse et il n'a pas admis, en fin de compte, la politique pétainiste. Et dès le départ, il s'est positionné contre Pétain. Il a fait partie des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, c'est-à-dire donc son engagement. Et il a payé de son engagement de sa vie. Hein, de sa vie. Bon, il a été assassiné en 1941, une balle à la tête. Bon, froidement, bon, c'est un assassinat politique,
hein,
qui donne tout son sens à sa mort d'ailleurs. Hein.
Tout à
c'est
fait.
Un vrai héros bon, de la lutte contre le fascisme et le nazisme.
Oui, voilà. En effet, oui.
Voilà.
Irénée Cros, lui, il était un patriote de l'ombre.
Irénée Cros, c'est un cas différent un peu.
Oui, mais est-ce qu'il a été vendu par jalousie ou pas? Parce que c'est l'impression que j'ai eue à un moment.
Il y a plusieurs thèses qui se confrontent et s'affrontent.
Oui.
Il est bien difficile de le savoir, etc.
D'accord.
Il a été C'est sûr qu'il a été dénoncé, ça c'est clair, oui. Dénoncé. Et il a fait preuve d'un grand courage puisqu'il a cherché jusqu'au dernier moment à protéger ses sources, ses camarades, et en brûlant ses papiers et en refusant de s'enfuir, sachant que s'il s'enfuyait, les Allemands, la Gestapo allait tomber sur ses papiers et que ça aurait entraîné des arrestations en rafale. Je dirais. Donc il a sacrifié sa vie pour protéger les camarades de son réseau. Et c'est aussi un cas héroïque. Bon.
Ah oui.
Et il a été enterré à Montgaillard, dans le caveau d'une famille amie. Et c'est là qu'il repose toujours.
D'accord.
Et moi, j'ai eu, par hasard, j'ai eu sa petite nièce, Diane Cross, qui est une brillante concertiste, en classe.
Et ça a dû vous faire plaisir, donc, de parler de cet homme-là.
Oui.
Parlons de la première femme qui est dans votre livre, Maddy de la Giraudière, grande artiste, première femme donc de votre liste. Vous l'avez certainement côtoyée, je suppose.
Je l'ai connue, bien connue. J'ai eu le plaisir de l'accueillir au Salon d'Ivre le Palmier il y a une dizaine d'années. Maddy était originaire de la région de la Vlanée. Hein.
C'est oui.
Elle s'appelle Couquette, de son nom de famille. Et elle est issue d'une famille de tisserands. Dans la région de la Vlanée, son aura, sa renommée était grande. Non seulement pour sa peinture, mais aussi pour ce qu'elle était, sa générosité et sa gentillesse.
Oui.
Et Maddy de la Giraudière, c'est la papesse un peu de l'art naïf, hein.
Oui.
On peut dire. Elle a laissé des toiles innombrables, notamment à la Vlanée, elle a laissé un chemin de croix magnifique. Moi, personnellement, j'ai 2 ou 3 tableaux d'elle à la maison, et ça fait toujours grand plaisir qu'on les regarde.
Ah oui, je veux bien le croire.
C'était une grande dame de la peinture. C'est vrai qu'elle a été reconnue de son vivant, ce qui est bien, par les Ariégeois, ce qui est encore plus difficile des fois.
Oui, je veux bien le croire. Jacques Dupont, alors ce Jacques Dupont, lui, il a été le champion du kilomètre, et en fait, il est né à Lézat, donc c'est à côté de Rieux.
Oui, alors Jacques Dupont, je ne le connaissais pas personnellement.
Oui. Hein,
parce que je ne m'intéresse pas énormément au vélo, ce n'est pas trop mon sport favori, moi c'est plutôt le rugby.
Oui. Hein, bon,
et il m'a été soufflé, le nom de Jacques Dupont, par un camarade de la galaxie littéraire qui s'appelle Taverner, qui est patron d'une maison d'édition qui s'appelle Le Pas de l'Oiseau. Et c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu as parlé de Jacques Dupont ? Je ne connaissais pas, j'ai cherché. Et bien sûr, j'ai introduit le personnage de Jacques Dupont, qui a un peu disparu, c'est vrai, du miroir de l'histoire ariégeoise.
Oui.
Et il incarne bien ce que le sport, en fin de compte, peut apporter à la gloire d'un pays.
C'est vrai. C'est vrai, j'ai pris plaisir à lire aussi cette histoire de Jacques Dupont. Là, on va parler d'un monsieur, c'est l'Ariège qu'il a vu naître, mais des on-dit auraient émis l'hypothèse que peut-être il était né en Haute-Garonne, mais comme le déménagement était prévu pour les jours de sa naissance, on l'a porté né dans l'Ariège. Je veux parler de Gabriel Fauré.
Ah.
Une grande énigme parce qu'elle m'a été dite à moi comme ça, mais voilà, je ne veux pas forcer l'histoire.
Alors, Gabriel Fauré, c'est, disons, un immense musicien qui est né à Pamiers, hein, qui est né à Pamiers officiellement, bon, hein, c'est ça, qui a donné son nom au lycée Le Foy, aux grandes dames d'ailleurs de l'État paméen, hein, et qui a eu vraiment une carrière musicale remarquable à l'extérieur de l'Ariège, bien sûr, il faut le dire,
mm-hmm.
parce qu'il est monté très jeune sur Paris, et c'est là qu'il a fait sa carrière, et une carrière très, très, très brillante.
Mais c'est pas pour ça qu'il a oublié l'Ariège.
Non, il y revenait régulièrement, et Fauré, c'est toute une époque. C'est l'époque vraiment d'une Ariège qui est celle du début du siècle, hein, de la fin du 19e, début 20e, de la belle, qu'on appelle la belle époque. Bon. Et Fauré, c'est sûrement le musicien ariégeois le plus célèbre que l'Ariège ait jamais produit.
Mm-hmm.
Hein, on peut dire ça.
Oui.
Car les autres sont souvent tomber un peu dans l'oubli.
Oui.
Je pense par exemple à Marc Ayoud-Emery, qui a été l'inventeur de la valse, eh bien, on ne se rappelle plus du tout de lui.
Oui.
Alors que Fauré, tout le monde connaît Fauré, bon, et ce qu'il a écrit.
Oui. Il avait aussi un amour fou pour la commune de Gaillac-Toulza.
Oui.
Parce que ça, ça a été quelque chose de fort dans son existence. Et d'ailleurs, il est mort dans la région parisienne.
Il est mort en région parisienne, mais il venait régulièrement.
Oui. Hein. Et son souhait aurait été que son corps soit rapatrié à Gaillac dans son caveau familial. Parce que toute sa famille est à Gaillac.
Ça n'a pas été le cas.
Et ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. Mais il a connu les plus grands musiciens de son époque. Et disons que ce qui est dit à Fauré, le Requiem, etc., aujourd'hui, ça fait partie de la gloire musicale de l'Ariège. On peut dire.
Oui.
Donc, il était normal que je l'y mette. Ça faisait partie des incontournables.
Tout à fait.
Je dirais.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, à Gaillac, on célèbre fortement Gabriel Fauré. On va parler de cette Apaméenne qui a été le grand amour de Napoléon. On va parler de Pauline Fourès.
Ah, Pauline Fourès. Alors, Pauline Fourès, c'est un cas un peu spécial. D'abord, c'est une très jolie femme. Quand on voit son portrait, elle était vraiment craquante, comme on dit.
Oui.
Jolie femme, qui n'a pas froid aux yeux non plus, il faut dire les choses comme ça.
En effet.
La fille d'un horloger, d'un pamier, et très vite, elle a pris, très jeune, tôt, connaissance, je crois, de son pouvoir de séduction. Et elle s'est servie de ce pouvoir de séduction comme un ascenseur social. Elle enjambe, en fin de compte, les hommes, comme on monte un escalier vers le pouvoir. Mm-hmm. Et elle passe d'un amant à un autre amant, toujours plus puissant, jusqu'au sommet, jusqu'à arriver à Bonaparte. On pourrait taxer de femme facile, je dirais que c'est une aventurière, en fin de compte, une séductrice. Hein. Et elle arrive dans les bras de Bonaparte, et malheureusement, elle ne va pas réussir à le garder. Bon, son aventure avec Bonaparte, elle lui aurait permis de devenir impératrice si elle et avait pu la conduire jusqu'au bout, mais ce n'est pas son cas. Et celle qu'on appelait la Bélilote, eh bien, finalement, elle a épousé un capitaine de la garde impériale et puis elle s'est lancée dans le commerce. Elle était au Brésil, etc. Hein. Elle a fini sa vie à la ville de Blois, où, à qui elle a légué d'ailleurs tous les biens qu'elle avait. Mais c'est une femme qui incarne vraiment la séduction et je dirais le fait que pour devenir en haut de l'échelle, eh bien, les femmes ont des arguments que les hommes n'ont pas parfois.
Et Claire Lacombe, elle, c'est la femme de la Révolution, carrément.
Oui, alors Lacombe, c'est très différent. Lacombe, elle, c'est la passionnariat de la Révolution. C'est une fille, d'ailleurs, dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, car quand elle a disparu des feux de la rampe révolutionnaire, on ignore quand est-ce qu'elle est décédée, où elle est décédée, dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais elle a été, pendant quelques semaines, quelques mois, une égérie de la Révolution, hein. Un peu comme Olympe de Gouges l'a été, comme certaines femmes, disons, très engagées, peuvent l'être des fois, peuvent jouer ce rôle-là. Et prononcer des discours absolument véhéments, mettant le feu aux poudres, bon, c'est un personnage un peu hors du commun également, bon, de ce que l'Ariège produit, car si l'Ariège produit des hommes et du fer, elle produit aussi des fois des femmes de fer.
Bien, bien, magnifique. Est-ce que vous avez été surpris des fois dans vos recherches quand on vous a dit par exemple de parler d'un tel personnage comme celui du champion des kilomètres? Est-ce que vous avez été surpris de voir qu'en Ariège justement il y avait autant de personnes qui ont fait l'histoire, qu'elles soient hommes ou femmes?
Oui, parce que je pensais que le nombre des Ariégeois célèbres, ça devait être une grosse vingtaine. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait facilement atteindre 70-80 personnes de premier plan. D'ailleurs, j'en citais d'autres dans la liste complémentaire, que j'aurais pu inclure, mais que je n'ai pas inclus souvent parce que je n'ai pas eu le temps, je n'avais pas la place. Il aurait fallu doubler le format du bouquin pour arriver à... Bon, et c'était pas dans les conditions de l'éditorial, disons. Mais il y a en effet les Ariégeois, il y en a. Et ça a été une grande surprise pour moi de voir que l'Ariège avait produit autant de talents, en fin de compte. Autant de talents, alors que je le crois plutôt réservé à des villes comme Toulouse ou autre chose, bon, ou des grandes cités, des grandes métropoles. Eh bien non, l'Ariège a connu aussi, a pauvrisé beaucoup de talents et il a vu s'éclore.
Ça, c'est une très belle page d'histoire, en tout cas, que vous nous ouvrez là. Georges Patrick, on va se faire une petite pause musicale. Vous avez choisi une valse.
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est Marc-Élie Desjardins qui a inventé la valse et Johann Strauss n'a fait que le recopier. C'est exactement comme Dom Pérignon avec la Blanquette de Limoux. C'est pareil. Ce sont des copieurs, mais ce sont des Ariégeois qui en ont été les inventeurs. Et la valse, c'est une invention ariégeoise.
D'accord.
Strauss, avec tout son talent, qui est très grand, n'a été qu'un ersatz. Marcaillou d'Emery, historique, j'entends bien.
Oui, bien sûr. On en reparlera de toute façon. Écoutons cette valse.
Thank you.
sommes en compagnie de Georges Patrick Glaize avec cette merveilleuse valse. Georges Patrick Glaize, votre livre, c'est Les Ariégeois qui ont fait l'histoire. C'est paru chez Le Papillon Rouge, édition. Et c'est paru en 2021, donc il est tout neuf ce livre. On va parler du génie des maths, Alexandre Grothendieck.
Grothendieck, c'est un cas à part. Ce n'est pas un Ariégeois de naissance, c'est un Ariégeois d'adoption. Je ne sais pas s'il est de cœur. Qu'il s'est venu se réfugier en Ariège. C'est quelqu'un qui est né en 1928 d'une liaison extra-conjugale entre son père, un anarchiste russe, et sa mère, une juive pratiquante. Et le jeune Grothendieck, il a une existence un peu particulière. Il n'a pas une existence au début,
c'est
comme
vrai.
Tout le monde. Et les retrouvailles avec son père ont été difficiles. Le père a été interné au camp du Vernet, par exemple. Et Grothendieck et sa mère ont été séparés en 1942. Et il s'est inscrit à la faculté de mathématiques à Montpellier. Et là, il a pu donner toute sa dimension, et une dimension énorme. Il a été attaché de recherche au CNRS. Il a enseigné des postes de professeur ensuite. Et je te dis que c'est un génie des mathématiques, tellement bien qu'aujourd'hui encore, on estime qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour arriver à comprendre, à dépouiller, à analyser les archives qu'il a pu laisser, et pour lesquelles d'ailleurs il y a des combats qui se livrent entre les héritiers d'un côté et la faculté de mathématiques de l'autre côté, tellement c'est riche, et c'est un génie, c'est une sorte de Pascal, en fin de compte, ou d'Einstein, de l'équation. Hein. Et ce type-là, il a eu une fin de vie intéressante, à la mesure où il a refusé le monde extérieur, et il est venu en Ariège, se réfugier, il a vécu comme un ermite pendant une trentaine d'années. C'est en ce sens qu'il est ariégeois. L'Ariège lui a ouvert ses portes, et on le croisait au marché de Saint-Giron, habillé comme vulgaire paysan, bon, hein, avec sa botte de poireau, etc. Et il disait ni rien, ni bonjour, ni rien à personne, il partait, voilà, c'est tout. Il a trouvé, il voulait qu'on foute la paix, on lui a foutu la paix.
D'accord.
Mais c'est un génie de mathématiques.
Mais c'est quand même les héritiers qui ont quand même plus de droits que la faculté, parce que c'est quand même son travail à lui.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Parce
qu'il avait donné des caisses et des caisses de pages de calcul à des gens de la fac qui les ont en légitime dépôt. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des combats homériques qui sont derrière. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il faudra peut-être 30, 40 ou 50 ans pour arriver à comprendre tout ce qu'il a fait.
Et oui.
Tellement il était un véritable génie.
Oui.
C'est un véritable trésor qu'il a laissé, mais ce déchiffrage de trésor va prendre un temps fou.
Et oui, parce que lui seul comprenait ce qu'il écrivait.
Lui seul, il comprenait ce qu'il écrivait, voilà. Bon, et nos petites cervelles ne sont pas à la hauteur du dixième de la sienne. Bon,
oui.
65 000 pages d'archives, vous imaginez, couvertes de signes kabbalistiques en tous sens, ce que ça peut représenter, à la fois comme trésor et aussi comme tâche à faire pour des mathématiciens.
Si Joseph Lacanal est le père de l'école laïque, Gatien Marcaillou-Démeric et celui de la valse.
Oui, alors
on va parler des deux, là.
Alors, Lacanal, bon, tout le monde le connaît, Lacanal, il est né en 1762, et il est né à Serres-sur-Argette. D'ailleurs, la ville de Serres-sur-Argette, dans les années 60, avait consacré un timbre, première émission, comme on dit, à sa naissance. Et Lacanal, il a une statue à Foix, qui est installée sur les allées de Villotte, qui a été déplacée deux ou trois fois, d'ailleurs. Hein. Et Lacanal, qui a été professeur de rhétorique, notamment, Lacanal a eu existence parisienne, et il a fait partie de ceux qui ont œuvré pour poser des pierres de l'héritage révolutionnaire. Et il est en effet l'un de ceux qui ont créé l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. Et en tant que président de la nation, il a vraiment apporté sa pierre à l'histoire de la France, on peut dire. Et il a créé l'Institut de France, il a réorganisé les académies, il a créé l'Institut des langues orientales, il a navigué dans la politique difficile de l'époque, avec beaucoup de circonvolutions. Il fait partie du Conseil des 500. Il a été commissaire général à l'organisation de la rive gauche du Rhin, etc. Et à l'heure de la Restauration, bien sûr, il a eu des problèmes. Il a été proscrit parce qu'il était régicide. Et donc, il a fallu qu'il parte, qu'il s'exile, notamment en Amérique. Et c'est là qu'il a été accueilli, en Amérique, par Jefferson. Et il y est resté très, très, très longtemps, puisqu'il ne rentrera que bien plus tard, pour se marier en 1842, c'est un mariage tardif, avec une femme de 44 ans, sa cadette, et il a été élu en 1943 à l'Académie des sciences morales et politiques comme vice-président, ce qui est la reconnaissance de son rôle, je dirais, de fondateur de l'école. Mmh. C'est vrai.
Oui. Je reviens à Marc Ayoud d'Emmerich, puisque lui a été justement le père de la valse, que nous avons d'ailleurs écouté là.
Tout à fait.
Que dire d'Emmerich ?
Alors, Marc Ayoud d'Emmerich, lui, d'abord, c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille d'Axeterme. Il y a toujours d'ailleurs des descendants de Marc Ayoud d'Emmerich à Axeterme, il faut le savoir aujourd'hui encore.
Oui.
Et c'est le deuxième fils d'un personnage qu'on appelle le doctrinaire, et sa jeunesse, la Dariégeoise, a été marquée par les études qu'il a fait à Toulouse, au collège de l'Esquille notamment, et sa scolarité terminée, eh bien, il a voulu faire la fac de médecine à Montpellier, il a obtenu son diplôme de médecin, mais c'est pas comme médecin qu'il va être connu, c'est comme musicien, chef d'orchestre, et il va donner des leçons de musique, notamment la princesse Mathilde, et c'est par la musique vraiment, beaucoup plus que par la médecine, qu'il va faire son entrée dans le panthéon des grands ariégeois. Hein. Mm-hmm. Il fréquente les compositeurs de son temps, il fréquente notamment Liszt, Chopin, Rossini, Gounod, et c'est quelqu'un qui a une maîtrise des notes, je dirais, et du solfège, qui en fait un grand théoricien. Hein. Et il va être ami avec Camille Saint-Saëns, et c'est lui qui crée vraiment la valse. Et il meurt de bonheur, il meurt à 48 ans, en 1855, et son œuvre, ce qu'il a créé comme rythme, va être repris ensuite par Johann Strauss, avec le succès que l'on connaît.
Très bien. Albert Périllou aussi est un grand organiste oublié, et lui, c'était un grand producteur de musique.
Albert Périllou, oui, c'est un organiste de l'or. Un peu oublié, c'est un élève de Saint-Saëns, lui aussi. Oui. Il fait partie donc de cette brochette des musiciens, et avec qui il s'entendait très bien, avec Saint-Saëns. Et il a été maître de chapelle, il a donné des leçons de piano à une jeune orpheline qu'il a fini par épouser d'ailleurs en 1879. Il était très lié à Gabriel Fauré. Gabriel Fauré a été le premier témoin à son mariage. Et il a été professeur de piano à Lyon. C'est quelqu'un qui a donné à l'orgue vraiment ses lettres de noblesse. Oui. Et aujourd'hui, personne ne s'en rappelle plus.
C'est ça, voilà. C'est dommage. Et merci en tout cas d'avoir remis tous ces noms un petit peu, on va dire, allez, sous la page de garde. Un ariégeois également. On va parler de ce grand monsieur qui a fondé Dakar. C'est un ariégeois qui a fondé une ville en Afrique.
Alors oui, Émile Pinet-Laprade est né en Mirepoix en 1822. C'est le fils d'une famille très honorable. Il est, disons, lié à une notabilité, la bourgeoisie mirapécienne. Et brillant élève, il va faire l'école polytechnique. Et en 1841, il prit l'école du génie. Eh bien, il va commencer une carrière militaire qui va l'en faire envoyer à Dakar. Et là, à Dakar, dans la région de Dakar, ce qui n'est pas encore Dakar, il va fonder donc cette ville. C'est une colonie à l'époque où il n'y a rien, si vous pouvez l'imaginer, telle qu'elle est aujourd'hui, bien sûr. Il va être un homme, disons, qui c'est un bâtisseur d'empire. C'est un tempérament paisible, mais il a un solide appétit de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui appartient donc aux notabilités, eh bien, va faire sa vie avec une femme noire, une esclave affranchie, qui va devenir sa maîtresse quasiment officielle. Et on peut imaginer à l'époque ce que ça a pu donner comme commentaire, parce que voir le gouverneur se promener ainsi avec au bras de cette dame, qui au demeurant est sûrement de grande qualité, mais je pense que sur le plan racial, ça a dû alimenter pas mal la chronique.
Oui, surtout à l'époque.
Surtout à l'époque. Bon. Oui. Et c'est l'un de ceux qui a créé le Sénégal moderne. Bon, hein, il a été mis en retrouvé en valeur par un livre de Jacques Carole qui s'appelle Le gouverneur et sa gouvernante, car elle a été sa gouvernante en quelque sorte. Hein. Elle n'a jamais été son épouse officielle, mais elle était dans l'ombre complètement de son mari. Il a été enterré à Saint-Louis du Sénégal d'ailleurs. C'est là qu'il a été inhumé et plus tard il sera inhumé ensuite à Mirepoix.
Alors justement, puisque nous sommes partis un petit peu en voyage à travers le monde, on va parler aussi de notre monsieur qui lui est né à Castillon. Et c'est d'ailleurs le fait de sa naissance qui l'a empêché de devenir président des États-Unis. D'ailleurs, si les auditeurs s'en souviennent, nous lui avions consacré toute une émission sur donc Pierre Soulé. Et c'était Catherine Chancerelle qui nous avait proposé ces écrits. Pierre Soulé a été l'homme du fleuve.
Tout à fait. Alors moi, je ne connaissais pas du tout Pierre Soulé, je dois le reconnaître. J'ai connu l'histoire de Pierre Soulé à travers le livre de Catherine Chancerelle. Et ça n'était pas eu son travail de recherche, jamais. Je n'aurais eu connaissance de ce sénateur américain qui a failli devenir président des États-Unis.
Et
oui. Et c'est pas passé loin. C'est un aventurier. Bon, il faut dire les choses comme c'est un aventurier. Il est haut en couleur. Il naît en 1801, donc à l'époque de la Révolution française. Là, il va bientôt partir aux États-Unis parce qu'il sent que c'est là-bas que le destin se passe.
Et puis ici, il ne peut plus. Il n'a plus
pignon sur rue. Il n'a plus rien. Alors, à 25 ans, il part avec au bout de l'aventure et il s'installe à Nouvelle-Orléans. Et à Nouvelle-Orléans, va être sa patrie. Il va s'y marier, il va devenir avocat, il se fait naturaliser américain, il se lance en politique. C'est un démocrate, au point de vue politique, c'est un démocrate là-bas. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas américain de naissance.
Et voilà.
Et donc ça l'empêche de devenir président. Mais il a été important pour l'histoire des États-Unis. Il incarne bien cette nation en train de se construire à partir des éléments de la vieille Europe.
Mm-hmm.
Hein. C'est quelqu'un qui a essayé également, et ça c'est remarquable, d'éviter la guerre civile. Il a tout fait ce qu'il a pu pour éviter cette effroyable guerre de sécession, la guerre civile. Et il s'est quand même mis au service des sudistes parce que il était un sudiste.
Et oui.
Historiquement parlant, d'où des contradictions de l'homme qui sont assez intéressantes.
Et oui.
C'est un Ariégeois, lui aussi, oublié, et pourtant. Et
oui, c'est vrai. Parlons sport maintenant. Le sport scolaire, eh bien, on le doit aussi à un Ariégeois qui s'appelait Philippe Tissier.
Alors, Philippe Tissier, en effet, c'est un médecin qui a été le Coubertin du sport scolaire.
Mmh.
À une époque où le sport était conçu comme l'éveil du corps et comme une philosophie, en fin de compte, de la vie. Philippe Tissier, il était partisan, lui, de la gymnastique américaine, de la réussite par le sport. Et aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de Philippe Tissier. Il y a exactement un collège qui porte son nom à Saint-Verdun, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, sa gloire a été occultée par celle de Coubertin, qui était son grand rival et avec qui il n'est pas toujours d'accord. Bon. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a payé, je dirais, le prix du vent de l'histoire. Les idées de Philippe Tissier en matière sportive et en matière d'hygiène physique sont assez proches, souvent, de celles des responsables du nazisme. La glorification du corps, ce sont des idées qui sont proches souvent des régimes totalitaires, bien qu'il n'en ait jamais, lui, défendu l'ombre d'un...
Oui.
Absolument pas. Mais disons qu'il y a un amalgame qui s'est fait.
Voilà, les gens ont amalgamé les deux.
Et donc, il a été mis au rancard parce que ce qu'il défendait comme hygiène de vie, ça rappelait trop des choses épouvantables et horribles. Voilà.
Oui, en effet.
C'est ça. Philippe Tissier, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est passé un peu à trappe, à l'oubliette, comme bien d'autres. Bon,
Et bien voilà, là c'est le moment de le remettre au bout du jour.
Voilà.
Et j'allais oublier un Ariégeois. Alors lui, il n'a pas fait parler de lui en bien. Sarda le Traginier.
Ah, Tragile.
Parce que lui, il n'a pas fait parler de lui en bien.
C'est un bandit, c'est le mandrin,
voilà.
Le mandrin ariégeois. Et son existence m'a été révélée par un excellent bouquin de mon camarade Pierre-Jean Brassac, qui a écrit un bouquin sur Tragine, et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et dont je me suis servi. Tragine, c'est en effet un révolté. disons, qui va jusqu'au bout, et sa révolte va l'amener au bagne, évidemment, parce qu'à une époque où on est condamné pour souvent pas grand-chose, eh bien, il va payer le prix cher, et comme il est un peu têtu, comme il est bourrique, bah, il va aller jusqu'au bout de ses inconvénients, et jusqu'à la mort.
Mais les gens l'aimaient bien, finalement.
Les gens l'aimaient bien, oui, les gens l'aimaient bien. Après, il ne faut pas non plus en faire ce qu'il n'était pas. On en fait parfois un Robin des Bois, c'était pas un Robin des Bois, c'est une tête de mule, une cape de mule, comme on dit en patois. Hein. C'est quelqu'un qui est dur, mais dans la lutte contre l'ordre établi, il incarne le faible, le petit. C'est ça. Mm-hmm. Donc on a tendance à le regarder avec des yeux, sympathiques, sans pour autant que sa conduite ait toujours été ce qu'il fallait qu'elle soit.
Oui. Après, il y avait un autre monsieur aussi qui n'était pas bien... Enfin, qui n'était pas aimé, c'était Alexis Vadier, qui lui était un régicide.
Alors Vadier, c'est un cas particulier. Vadier, c'est l'Ariégeois maudit, le politique Ariégeois maudit. Vadier, il a été régicide, il a été plus que régicide. Il a été un de ces révolutionnaires qui ont du flot de sang sur les mains, puisqu'il a envoyé des dizaines de personnes à la guillotine, sans beaucoup l'état d'âme. Vadier, c'est lui le créateur du département de l'Ariège.
Oui.
Il a créé l'Ariège en tant que département, c'est lui qui en a été l'organisateur, il l'a découpé. C'est à lui qu'on doit, par exemple, le fait que la préfecture soit à Foix et pas à Pamiers, etc. Et Vadier, quand l'heure de la révolution a passé, il s'est enfui parce que, pour lui, ça commençait à sentir un peu le brûlé. Hein. Et Vadier, aujourd'hui, deux siècles après, reste toujours marqué, c'est ça qui est remarquable, par une opprobre qui fait que, par exemple, sa statue qui était dans la cour de la mairie de Pamiers a été déménagée dans les sous-sols parce qu'on ne voulait plus la voir, parce que Vadier, il n'est pas fréquentable. Bon.
Oui. Et, il dérange quelque part dans les souvenirs.
Quelque part, ça reste dans le souvenir comme un Ariégeois politique maudit.
Oui. On va revenir aux illustres, et celui-ci est un illustre parmi les illustres, et je pense un homme bon parmi les bons. Il a fait l'histoire comme on fait l'histoire, comme on devrait faire l'histoire, en tout cas, à mon sens. C'est ce fils de l'ESAT, François Verdier.
Alors François Verdier, on le partage, François Verdier, comme héros, avec nos camarades toulousains. Mmh. Mon ami Mathieu Arnal, qui a écrit d'ailleurs dans la même collection que moi, ces Toulousains qui ont fait l'histoire, en parle également parce qu'il est dans les deux départements.
Tout à fait.
François Verdier, c'est un homme qui a eu une existence tragiquement conclue, puisqu'il a été assassiné par la milice de la forêt de Boucone. Parce qu'il était résistant, parce qu'il était franc-maçon, parce qu'il avait tous les inconvénients possibles au sujet du régime de Vichy, bien sûr. Il est pourtant le type même de l'homme qui est un honnête républicain, un progressiste convaincu, mais qui, dans l'ère du temps qu'il a traversé dans ses années 30-40, évidemment, avait des convictions qui le mettaient à la portée du couteau de ses adversaires. C'est un homme qui a aujourd'hui rendu hommage, puisqu'il y a des allées à Toulouse qui portent son nom. Il y a aussi des collèges qui sont à son nom, c'est vrai. C'est un homme assez remarquable, qui avait beaucoup de cordes à son arc, et qui n'a pas été oublié, peut-être comme d'autres l'ont été. On connaît cela.
Il y a un astronome aussi qui est né en Ariège, c'est Jacques Vidal. Il a fait beaucoup pour le ciel.
Lui, c'est le découvreur de Mercure. Et c'est un mirapétien. On ne sait pas grand-chose sur lui énormément. On sait des petites choses, mais la maison où il habitait, par exemple, a été démolie. Donc il est fin du 18e, à une époque où on s'intéresse beaucoup à la science et où on a foi en la science, parce que cette foi en la science, c'est la foi dans le progrès et dans l'humanité. Il est dans ce courant-là.
Là, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, puisque le chantre de Ruby, il est aussi ariégeois. Et on va essayer de faire recours.
Voivenel, c'est un personnage historique. Voivenel, c'est un médecin qui a fait une guerre courageuse, qui a cherché, par son métier médecin, à apaiser les souffrances épouvantables des poilus qui étaient gazés. Il a écrit un bouquin, d'ailleurs, sur comment soigner les gaz de combat à une époque où on ne savait pas grand-chose. Et Voivenel, qui a été, je ne dis pas l'ami, il a été assez proche de Pétain, assez proche pour que Pétain, en 1935, vienne inaugurer le monument aux morts de son village, qui est un monument aux morts, une heure de bourdelle, avec trois têtes extraordinaires, que tout le monde connaît. Et Boisvenel, il a été dans cette duplicité, je dirais, pétainiste, mais en même temps aussi, il a... pendant la guerre, il a sauvé des juifs, il a fait des actes de résistance, ce qui lui a valu qu'il n'a pas été poursuivi pour tout ça. Il incarne cette espèce de bivalence qu'il peut y avoir. Hein. Et il a été le champion du rugby, notamment du rugby à 13. Et sa maison est devenue un véritable musée aujourd'hui. Il est mort sans enfant, hein, sans pas d'héritier.
Oui.
Une maison qui est un musée et dédiée largement au rugby.
Oui.
Hein. Et c'est vrai qu'il a incarné un certain rugby, un rugby amateur, un rugby champagne, un rugby de village.
Comme il devrait être.
Comme il devrait être, et qui n'est pas du tout le rugby d'aujourd'hui.
Et oui.
Un rugby professionnalisé, un rugby où, disons, c'est vrai, où la notion d'argent compte. Ouais, et où on est dans des logiques mercantiles et financières.
Mm-hmm.
Bon, lui, c'est un rugby de village. C'est le rugby de la castagne hein, aussi, des fois.
Oui. Lire ce livre a été un plaisir pour moi, puisque je connaissais quelques personnages dont nous avons parlé, mais bien sûr, je ne les connaissais pas tous. Et donc, ça a été une véritable découverte. Et je conseille à nos auditeurs, justement, de se procurer ce merveilleux livre pour ceux qui adorent l'histoire et ceux qui adorent les hommes, tout simplement, et les femmes. La qualité du papier, c'est vous qui l'avez choisi ?
Pas du tout. Absolument
pas. Magnifique.
Je vais laisser ça à mon éditeur, à Hubert Delobette, que je salue ici, et qui est un ami, et qui a fait un remarquable travail d'édition d'ailleurs, et un livre qui est agréable au toucher, c'est vrai, et agréable à lire, et qui peut se lire dans n'importe quel ordre qu'on peut prendre, qu'on peut laisser, qui est un format agréable, qui n'est pas trop lourd, qui est facile à transporter, qu'on peut glisser dans une valise. C'est un joli travail, et je crois que les Ariégeois s'y retrouveront largement.
La couverture, vous y avez participé ?
Pas du tout, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. C'est mon éditeur qui a fait la couverture, qui est en effet assez jolie, puisqu'elle met en évidence la machine à écrire pour l'écrivain, les arts, etc. Les pinceaux, et puis les outils, car le travail est toujours là, présent. Bon, voilà.
En tout cas, il n'y a pas d'épilogue, puisque ce n'est pas un roman que vous nous avez présenté aujourd'hui. Ce sont ces hommes ariégeois et ces femmes ariégeoises qui ont fait l'histoire. Comme vous le disiez un petit peu dans le début de l'émission, vous avez ajouté une liste pour ces femmes et ces hommes du département, connus ou pas, comme Christian Bernadac, Pierre Dumas, Marie Laforêt, Gaston Massat, Napoléon Peyrat, entre autres,
oui.
Voilà, ces Ariégeois qui ont fait l'histoire, et c'est paru chez le Papillon Rouge Édition, et c'est un livre qui est de cette année, il est tout frais.
Tout à fait.
Je vous propose qu'on le laisse découvrir à nos auditeurs, et auxquels donc je recommande encore une fois cette excellente lecture pour l'histoire passionnante, la mémoire, la culture que l'on peut y lire, comme bon nous semble, comme on le disait. On peut l'entamer de la fin, au début, au milieu, n'importe, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a des hommes et des femmes, comme tout un chacun, qui ont fait beaucoup pour l'histoire. Et donc, on n'est pas obligé de le lire d'un trait. Vous, Georges Patrick Laize, qui êtes très attaché à l'Ariège, qui êtes féru d'histoire, vous avez dû vous régaler.
Disons que ça a été un grand plaisir que j'ai conjugué de deux manières. C'est-à-dire que le matin, j'écrivais mon roman et l'après-midi, je travaillais aux biographies. Et il a fallu mener les deux de front, ce qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs. Mais bon, on y a finalement réussi. Et mon roman va sortir donc la semaine prochaine, dans les délais impartis.
Bien.
Donc, ça va
donc
pas,
cette année, deux livres.
Il y aura
livres,
deux romans cette année.
Oui, en effet. Merci beaucoup, Georges Patrick, de nous avoir concocté un si bel ouvrage, d'avoir découvert ces hommes, ces femmes du Sud qui ont fait l'histoire. Mais je ne veux pas finir non plus sans parler de notre personnage, et ça sera pour le mot de la fin justement, ce prêtre de Gestiès, Sabas Mori, qui a produit une chanson texte et musique qui va d'ailleurs finir notre émission. Je vous dis pour moi au revoir et je vous laisse le mot de la fin.
Eh bien, Savas Maury, il est enterré à Varilhes, petit bourg qui marque la frontière entre la plaine, je dirais, et la montagne. Hein. Et il incarne bien, Savas Maury, cet amour de l'Ariège, un amour qui se décline d'abord par le fait qu'il parle et qu'il pratique la langue, ce qu'on appelle le patois, vulgairement. Hein. Et il compose, il écrit, il fait de l'histoire, des recherches, et en même temps, bon, il mène son ministère à bien, avec à charge des âmes dont il s'occupe. Il incarne bien ces Ariégeois du 19e siècle, du début du 20e, disons qu'ils sont à cheval sur les deux, sur le laïc, sur le spirituel, c'est les deux, et sur la recherche, et puis sur la créativité. Hein. C'est pas pour rien qu'il a écrit d'ailleurs Ariège mon pays, et qui est un hymne admirable que tous les Ariégeois connaissent et ont du plaisir à fredonner.
Léo Garonnet aussi, je pense qu'ils le connaissent bien. Tous ceux des Pyrénées, je pense qu'ils le connaissent. On va l'écouter et merci encore, Georges Patrick.
Mais merci beaucoup
de nous avoir concocté dans ce
et à bientôt.
Ce recueil. À bientôt, au revoir.
Ariège. Ariège o mon país, o tero tanta imado, maire tanta durado. Te presero en tu jour, tu no me rejuvis, Ariège o mon país. Ai, vida mu, tas montagnos superbos, libellurme d'un blanc avirumen, mes din l'estiu de mes las autos arbos, les agnelus reginum folomen. Ariège, Ariège mon pais, o tero tanta imado, mai tanta durado. Prese luego en tu jul, tu numere juiz, Ariège mon país. Ay, mi tabe, tas campaños pulidos, un tut prospero en la viñeles blancs, tus ríos d'argent, et tas prados floridos, et tus planes de bosques coronas. Ariège, Ariège mon país, o tero tanta imado, maire tanta durado. Te presero en tu jour, tu numere Ariège mon país. Per l'auselu fas que soleio pluejo, le plus bel ni sera toujours le cieu. Son ariégeois dai samme un ariège, cap de país n'espurit cum le mieu. Ariège, Ariège mon país, o tero tanta imado, maire tanta durado. De prese luego en tu jour, tu nome rejuís, Ariège mon país. O mon país, tan dusa ma memorio, tu nun hai mates grava di mungo. Un son nascut di un vergo che memorio, giur mieu ciel blu, cae miru su lei do. Ariège, Ariège mon país, o tero imado, maire tanta durado. De presero en tu jour, tu nome rejuís,
llamo un país, otero tanta imado, maire tanta durado. Te pres de luen tu jur, tu nume rejuvis, ariejo mun país.
C'était Page après Page, une rencontre intimiste avec un auteur.